Merci d'écouter Canal M. C'est l'émission Les Voix de Service Extra en ce 10 août 2017. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Et entre autres choses au programme culturel, redécouvrir la musique classique. La virée classique de l'OSM s'ouvre aujourd'hui. Bernard Adamus prend une pause et primeur québécoise au Festival du cinéma à Toronto. Le cahier JM du Journal de Montréal fait remonter des émotions. Marie-Soleil Touga, 1970-1997, décédée il y a 20 ans. Alors, il y a plusieurs photos. Et un texte signé Maxime Demers, « Le souvenir de Marie-Soleil demeure encore très présent ». Grégory Charles se souvient comme si c'était hier du triste dimanche 10 août 1997. Ce jour-là, il y a exactement 20 ans, tout le Québec a été secoué en apprenant le décès tragique de la populaire actrice et animatrice Marie-Soleil Touga, 27 ans, et de son conjoint, le talentueux cinéaste Jean-Claude Lauzon, 43 ans. L'accident est survenu alors que le couple effectuait un voyage de pêche dans la baie d'Ungava. Le petit avion Cessna que pilotait Lauzon s'est écrasé après avoir heurté une montagne et avoir pris en feu. J'étais dans ma voiture et j'ai entendu à la radio ce matin-là qu'il y avait eu un accident d'avion et que des personnalités connues étaient impliquées, raconte Grégory Charles qui a co-animé pendant 7 ans avec Marie-Soleil Touga l'émission Jeunesse Les Débrouillards et qui a aussi joué à ses côtés dans le populaire téléroman Chambre en ville. Immédiatement, j'ai su dans ma tête que c'était Marie-Soleil. Je savais qu'elle était en voyage avec Jean-Claude et qu'ils étaient partis avec son avion. On s'était parlé avant qu'elle parte et on devait souper ensemble le lundi soir après son retour à Montréal. Il se passait plein de choses excitantes dans sa vie et elle voulait qu'on en parle. Quelques minutes après avoir entendu la nouvelle à la radio, Grégory Charles a reçu un coup de fil du père de Marie-Soleil Touga. Il m'a dit en peu de mots que c'était bien Marie-Soleil qui était décédée dans l'accident et qu'il ne sentait pas qu'il avait la force d'organiser des funérailles. « Je lui ai tout de suite dit que j'allais m'en occuper », relate Grégory Charles, visiblement encore troublé par cette histoire. « Ce n'était pas quelque chose que je souhaitais faire, mais j'étais content d'avoir le privilège de vivre ce moment-là. Marie-Soleil et moi, on s'est connus très jeunes. On a eu ensemble des questionnements sur la vie, les enfants, la famille, les chums et les blondes. Peu de temps avant l'accident, on était allés faire du parachute ensemble. C'est fou parce que quand j'ai appris sa mort, j'avais encore en tête les images de Marie-Soleil qui était au-dessus de moi dans notre chute libre et qui me disait « Je te vois d'en haut ». On a gardé ces images et on les a diffusées dans le cadre des funérailles. Marie-Soleil Touga a conquis le cœur du public dès l'âge de 11 ans, alors qu'elle faisait ses débuts comme comédienne dans le téléroman « Peau de banane » en 1982. Devenant rapidement une chouchou des téléspectateurs québécois, elle a ensuite joué dans plusieurs séries à succès, dont Chop Suey et Entre quatre yeux, en plus d'animer les émissions Les Débrouillards et Fort Boyard. Elle s'est aussi beaucoup impliquée dans plusieurs campagnes de sensibilisation comme Éduc'alcool et la Fondation Enfant Soleil, Opération Enfant Soleil, dont elle a souvent animé le Téléthon annuel. Dès ses débuts à la télévision, les gens ont adopté Marie-Soleil comme si c'était leur fille, indique l'auteur et chroniqueur Guy Fournier qui l'a connue en travaillant avec elle pour son téléroman « Peau de banane » et qui est resté ami avec elle jusqu'à la fin. Elle avait un charisme extraordinaire et elle avait cette image de fille douce et attachante autant à l'écran que dans la vie de tous les jours. C'était impossible de ne pas l'aimer. Grégory Charles abonde dans le même sens. Tout le monde aimait Marie-Soleil Touga. Marie-Soleil était belle, pure, talentueuse, authentique. Pour les gens plus âgés à l'époque, elle représentait le genre de fille que tout le monde aurait voulu avoir. Et pour les gens de ma génération, c'était la fille avec qui tout le monde voulait être ami. Elle était très populaire de plein de façons. C'était vraiment une fille exceptionnelle et une belle personne. J'aurais tellement aimé voir à quoi auraient ressemblé ses enfants. Encore aujourd'hui, je m'ennuie d'elle. » Les paroles de Grégory Charles à propos de Marie-Soleil Touga, qui nous quittait il y a 20 ans aujourd'hui avec son amoureux, le cinéaste Jean-Claude Lauzon. Alors, on poursuit les nouveaux films des cinéastes québécois Kim Nguyen, Robin Aubert, Denis Côté et Simon Lavoie font partie des quatre longs-métrages québécois qui ont été retenus dans la programmation du prochain Festival international du film de Toronto, le TIFF, qui aura lieu du 7 au 17 septembre. C'est donc le public torontois qui aura la chance de découvrir en premier l'intrigant thriller Les Affamés, film de zombies réalisé par Robin Aubert, mettant en vedette Marc-André Grondin, Monia Chokri et Micheline Langteau. Le film sera projeté en première mondiale dans la section Contemporary World Cinema du festival. C'est dans cette même section que sera dévoilé en primeur le film La petite fille qui aimait trop les allumettes, une adaptation du roman du regretté Gaétan Soucy, réalisé par Simon Lavoie. Eye on Juliet, le nouveau film de Kim Nguyen, sera aussi présenté au TIFF, au début de septembre, quelques jours après sa première mondiale à la Mostra de Venise. Ta peau si lisse, la nouvelle œuvre du cinéaste Denis Côté, aura aussi droit à une projection à Toronto après avoir été lancée cette semaine au Festival de Locarno. Alors que plusieurs observateurs s'attendaient à ce qu'il soit lancé au TIFF, les films de Xavier Dolan et de François Girard ne figurent pas à la programmation du Festival torontois pour l'instant. Bernard Adamus a annoncé hier qu'il annulait sa tournée de spectacle en Threesome, s'il vous plaît, prévue l'automne prochain. Le chanteur a expliqué sa décision dans un long message Facebook. Il y revient d'abord sur son début de carrière il y a près d'une décennie avant d'ajouter « Voilà, le temps, ce vieux forçat, est venu subitement s'abattre sur moi, presque d'un coup. Je me suis réveillé presque 1000 shows plus tard et une voix en moi me disait un message bien clair. « Bob, il est temps que tu te fermes la trappe pour un temps, puis vite à part de ça, vite avant de tout brûler, vite avant de perdre le principal, vite avant de plus en avoir le goût, et plusieurs autres vite, mais je vous épargne les litanies et la plaignardise. Je suis simplement extrêmement fatigué et pas mal à bout. » Le chanteur présentera quand même 4 spectacles dans les prochaines semaines, soit à Chicoutimi, Amos, Beauharnois et Saint-Jérôme. Reposez-vous bien, Bernard Adamus.
de George Gershwin, Porgy and Bess, pardon. On vient d'entendre Summertime, c'était interprété par Kiri Te Kanawa.
Merci Maurice, et c'est en lien avec la nouvelle que je vais vous lire, l'article « La virée classique de l'OSM, entre parenthèses, découvrir la musique classique ». La sixième virée classique de l'Orchestre symphonique de Montréal s'amorce dans la métropole aujourd'hui. C'est l'occasion de s'initier à la musique classique, selon le comédien André Robitaille, porte-parole de l'événement pour la seconde fois. Coup d'œil à la programmation, Stéphanie Dupuis. André Robitaille porte de nombreux chapeaux, mais pas celui de musicien. Il peut toutefois se prévaloir d'un lien étroit avec la musique classique. Ayant repris depuis près d'un an le rôle de Mozart dans la pièce « Edgar et ses fantômes » de Normand Chaurette, l'artiste ne pouvait manquer d'accepter pour la deuxième fois le titre de porte-parole du festival. « Je connais tout de la musique classique », lance à la blague André Robitaille, qui se défend d'être un expert en la matière. Mélomane, il invite les familles et les curieux à prendre part au festival qui constitue une occasion rêvée pour le public de s'initier à cette tradition. L'intérêt de la virée classique, c'est d'aller essayer quelque chose au lieu de le juger ou tout simplement de retrouver ce qui nous passionne déjà, ajoute-t-il. Selon l'artiste, le public peut s'attendre à une nouvelle façon d'expérimenter la musique classique. Les concerts sont ponctués d'animations, de danse et de théâtre. Entre les prestations, des causeries entre enfants et musiciens sont organisées, tout comme des séances de signatures, d'autographes et de rencontres avec les interprètes. Il s'agit de briser les barrières, de créer la proximité de l'individu et de la musique. En plus d'être porte-parole, André Robitaille se joint à l'animation de plusieurs événements durant les trois jours du festival, notamment pour la représentation de Porgy and Bess en soirée d'ouverture, qui espère atteindre les 30 000 spectateurs. C'est un spectacle qui dure normalement 3 heures. Il a fallu couper, donc il fallait quelqu'un pour raconter ce qui a été retiré, précise le comédien. Parmi ses suggestions, le porte-parole cite la soprano Soumi Jo, le comédien Patrice Robitaille, qui prendra part à l'histoire du soldat de Stravinsky, ainsi que Lorraine Desmarais pour l'hommage à 3 maîtres. Marie-Josée Lard, artiste pluridisciplinaire d'origine haïtienne, prendra part à l'imposant spectacle d'ouverture du festival ce soir au Stade olympique. Elle incarnera Bess de l'opéra Porgy and Bess. Le compositeur Gershwin aurait précisé à l'époque qu'il désirait que les rôles soient confiés à des artistes noirs. En conséquence, la programmation de la soirée, un véritable saut dans les années 20, table notamment sur Gardy Fury, Justin Welch, le Montreal Jubilation Gospel Choir et de nombreux autres artistes nord-américains. Animé donc par André Robitaille, ce spectacle est dirigé par Kent Nagano et le chœur par Andrew McGill. Ce sera grandiose selon l'interprète qui expérimente sa première virée classique cette année, ce soir donc au Stade olympique. Parcours urbain signé Rabagliati. La maison d'édition La Pastèque, Michel Rabagliati, auteur de la célèbre série de bandes dessinées Paul, et l'organisation Vive Montréal dévoileront ce matin un parcours de 12 cases géantes originales intitulé Paul à Montréal. Créé dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole, ce projet s'articule dans 12 lieux du plateau Mont-Royal, entre la station de métro Laurier et le parc La Fontaine. Entretien avec le bédéiste dont l'amour pour Montréal est intarissable, c'est André Duchesne qui l'a rencontré. Rabagliati devant la planche numéro 5, on le voit sur une photo installée dans la ruelle de Mers. On y reconnaît des militantes pour le droit de vote de femmes, des femmes, un Père Noël, un camelot vendant la presse dont la manchette annonce la Coupe Stanley aux Canadiens. Nous sommes dans une fantaisie historique, rappelle l'auteur. Ce n'est pas précis dans les dates. Certains éléments d'une même image peuvent être décalés de 12, 15, même 20 ans. Chaque planche doit donc être lue comme un condensé d'époque. Depuis les débuts de la série Montréal, de la série Paul, Montréal, ses lieux et ses attraits ont toujours eu une place importante dans l'œuvre de Michel Rabagliati. Et pour cause, ce natif de Rosemont est un amoureux de sa ville. Dans mes livres, il y a beaucoup d'architecture et d'amour pour la ville. Dès que j'ai eu 8 ou 9 ans, je sillonnais les rues sur ma bicyclette Mustang. Nous allions sur le Mont-Royal, à l'île Sainte-Hélène, sur le plateau ou dans les grands magasins du centre-ville. Le choix de présenter l'exposition sur le plateau Mont-Royal constitue aussi une référence directe à une partie importante de la vie de Michel Rabagliati. Dans son ouvrage « Paul en appartement », l'histoire est celle d'un jeune couple qui emménage dans un logis à l'angle des rues Saint-Denis et Villeneuve, comme c'est arrivé dans la vie du bédéiste et auteur. « Avec ma blonde, nous avons tellement sillonné ces rues dans les années 80, se rappelle-t-il. » Comme le circuit Paul à Montréal constitue une œuvre d'art public, nous avons demandé à Michel Rabagliati quelle était son œuvre préférée dans la ville. Réponse, la sculpture « Le malheureux magnifique » de Pierre-Yves Anger. Au départ, elle se trouvait au métro Berry et maintenant, elle est au coin de Sherbrooke et Saint-Denis. Elle punch. Je pense qu'elle est maintenant à un endroit plus logique, car le personnage a les deux mains sur la tête au bas d'un édifice très haut. Très lisse, comme si quelque chose pouvait lui tomber sur la tête. Alors, le circuit Paul à Montréal est dévoilé ce matin et profitez-en parce que ça va se poursuivre encore quelques mois jusqu'à décembre, si mon souvenir est bon, parce que l'information n'y est pas pour l'instant. On y reviendra assurément. La chanteuse et actrice Selena Gomez, 25 ans, rejoint Elle Fanning et Timothée Chalamet au casting du prochain long-métrage du réalisateur new-yorkais Woody Allen, rapporte Variety. Aucun détail n'a fuité concernant l'intrigue du 49e long-métrage du cinéaste. Le projet, encore sans titre, sera distribué en salle par Amazon Studios. Le réalisateur et la filiale cinéma du géant du e-commerce ou e-commerce ont déjà collaboré pour le long-métrage « Café Society » sorti en 2016 et « Wonder Wheel » qui sera présenté en clôture du Festival du film de New York le 15 octobre prochain. Le drame, porté par Kate Winslet et Justin Timberlake, est attendu le 31 janvier 2018 sur les écrans français. Amazon a également produit et diffusé « Crisis in Six Scenes », la première série télévisée de Woody Allen. Selena Gomez a récemment été à l'affiche de « Nos pires voisins 2 » de Nicholas Stoller et aussi un autre film signé James Franco « In Dubious Battle ». Les actualités sportives. Après avoir raté deux jours d'entraînement, le milieu de terrain Balou Tabla était de retour au centre Nutrilait mercredi et il a présenté ses excuses aux membres de l'Impact de Montréal et aux partisans de l'équipe. Balou avait raté une séance de remise en forme lundi, puis avait préféré rester chez lui mardi au lieu de s'entraîner avec ses coéquipiers, apparemment frustré par la décision du club de rejeter une offre de transfert de la part d'une formation européenne. La controverse a éclaté lundi quand le réseau ESPN a rapporté que Balou et son clan étaient insatisfaits des efforts de l'Impact pour favoriser un transfert vers l'Europe. Une source aurait affirmé que l'Impact avait rejeté les avances de plusieurs formations. La Canadienne Brittany Crew s'est classée au sixième rang lors de l'épreuve du lancer du poids à sa première présence au championnat du monde d'athlétisme présenté à Londres. Elle est la première Canadienne à atteindre la finale de cette épreuve. Pour cet échelon, elle a réussi un lancer de 18,21. La Chinoise Gong Lijiao a effectué un lancer de 19,94 mètres pour la victoire. Par ailleurs, aux 400 mètres, l'Américaine Phyllis Francis a créé la surprise. La championne olympique Shauna Miller-Uibo semblait en voie de remporter l'or avant de ralentir au dernier mètre de la course, visiblement victime de douleurs à sa jambe droite. Toronto, Halep passe au troisième tour. La championne en titre Simona Halep a atteint le troisième tour de la Coupe Rogers à Toronto, l'emportant 6-4, 6-3 devant Magdalena Rybarikova de la Slovaquie. La Roumaine a eu le dessus 4-2 pour les Bris. En troisième ronde, sa rivale sera la Tchèque Barbora Strikova, 26e au monde. Par ailleurs, l'Américaine Cici Bellis a surpris en ayant le dessus 6-4, 7-5 à la 8e tête de série, Svetlana Kuznetsova. Bellis a remporté 74% des points disputés sur sa première balle de service et elle a brisé le service de sa rivale russe à 3 reprises. Âgée de 18 ans, Bellis occupe le 36e rang mondial. Denis Shapovalov devra s'habituer au cours central du Stade Dnipri car il y fera une troisième visite en autant de jours. Le jeune Canadien a causé une surprise de taille mercredi battant l'Argentin Juan Martín del Potro 6-3, 7-6 au deuxième tour de la Coupe Rogers. Le match a donné lieu à beaucoup de longs échanges au cours desquels la puissance des deux joueurs a été mise en valeur. Le Canadien a toutefois été plus dangereux lors de sa première balle de service et il a commis moins de fautes directes, ayant finalement le dessus en 1h44. Comme je l'ai dit mardi, Juan Martín est mon idole, alors c'était tout un honneur de jouer contre lui, a affirmé Shapovalov. Ce sera vraiment très bon pour ma confiance. Rugby 98-0, le Canada a connu des débuts éclatants hier à la Coupe du monde féminine de rugby à Dublin, en Irlande, en signant une victoire de 98-0 contre Hong Kong. Magali Harvey, joueuse par excellence de la rencontre, a inscrit 5 essais et 8 convertis. So hit, take this little tip, let your spirit rip, when you skip to the bip. Tiger Woods a plaidé non coupable à une accusation de conduite avec des facultés affaiblies hier, mais il a accepté de participer à un programme de déjudiciarisation pour ceux qui en sont à leur première infraction de cette nature, ce qui mènera à l'abandon de l'accusation plus tard cette année. L'avocat du golfeur âgé de 41 ans, Douglas Duncan, a déposé le plaidoyer. Woods ne s'est pas présenté au tribunal du comté de Palm Beach en Floride. Selon la procureure Adrienne Ellis, le golfeur n'est pas traité différemment d'une autre personne. football, les Falcons d'Atlanta ont accordé une prolongation de contrat de 5 saisons au porteur de ballon Devonta Freeman. Les détails financiers de l'entente n'ont pas été dévoilés, mais on s'attend à ce que Freeman devienne l'un des porteurs de ballon les mieux payés de la NFL. En 3 saisons avec les Falcons, Freeman a accumulé 2383 verges de gains au sol, dont 2 campagnes de plus de 1000 verges en 2015 et en 2016. Ces 3175 verges de gains combinés lors des 2 dernières campagnes le classent au 2e rang de la NFL à ce chapitre, derrière son coéquipier Julius Jones. Merci beaucoup Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis, j'espère que vous allez bien profiter de cette journée chaude et que vous ne souffrirez pas d'humidité. Alors, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Au revoir.